Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce numéro, Art Sud ouvre une agence à Sisteron, à la clé du matériel scénique destiné à la location des associations et collectivités pour leurs manifestations. Reportage dans ce magazine. À Digne, l'école d'art IDBL propose d'ores et déjà une exposition collective et invite à une conférence la semaine prochaine. Des détails dans un instant. Moment d'émotion intense lors des correspondances de Manosque, Emmanuel Lambert a rendu hommage à Jacques Ménie, emblématique président des Amis de Jean Giono décédé en juin dernier, son interview pour Force 7. Après la littérature et les correspondances, Manosque accueille un spectacle de danse contemporaine ce mercredi 5 octobre, le reportage d'Odile Frison dans ce magazine. Samedi 29 octobre, Sisteron va accueillir une soirée années 80 et 90. Chris Alessandri a interviewé Lila Ferrario qui organise cet événement. Art Sud inaugure son agence pour les Alpes du Sud à Sisteron.
Initié par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Art Sud est un outil d'accompagnement dédié aux acteurs culturels régionaux. La régie culturelle et l'Arcade ont fusionné notamment pour créer un fonds de matériel scénique, sonorisation et éclairage principalement, mis à disposition des associations et collectivités territoriales grâce à un système de location peu onéreux. L'ouverture d'une troisième agence en région concernant les Alpes du Sud confirme la volonté régionale de service et aide au spectacle vivant. Bientôt, des espaces de répétition et des conteneurs pour entreposer des décors de théâtre suivront. Les acteurs, festivals, structures et communes sollicitent déjà Art Sud Sisteron, ouvert en mai dernier, et dont l'inauguration officielle a eu lieu récemment, au son et rythme de la Nouvelle-Orléans. Dans l'assistance, des élus, artistes et programmateurs étaient présents pour cet événement et ont accompagné la conseillère régionale Agnès Rossi, venue en voisine des Hautes-Alpes pour couper le ruban inaugural. Je vous propose d'écouter le maire de Sisteron, Daniel Spagnou, ravi de cette installation en sa ville, puis Elodie Prel, qui dirige le Théâtre d'Urance de Château-Arnoux-Saint-Auban, ainsi que Gilbert Elkaïm, élu local et président des Riches Heures Musicales de Simiane-la-Rotonde, mais d'abord Michel Bissière, conseiller régional qui préside Art Sud. Michel Bissière, vous êtes conseiller régional et également président d'Art Sud. C'est quoi Art Sud ?
Art Sud, c'est un établissement public qui valorise la politique culturelle de la région, d'une part, et qui accompagne toutes les structures culturelles, que ce soit les structures associatives, même parfois les collectivités territoriales, les petites communes notamment, dans leur programmation, dans leur accompagnement, dans leur formation. Voilà, on est auprès des associations et des collectivités pour les accompagner dans leurs projets culturels.
Aujourd'hui, vous ouvrez une agence à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Pour l'instant, depuis le mois de juin, on a commencé à proposer aux collectivités, aux associations, de la location de matériel. Son, lumière, estrade, on a même des barrières anti-intrusion. Donc vraiment tout ce qui peut correspondre et attendre une collective ou une association pour la préparation d'un événement culturel. Et puis on a d'autres projets, puisqu'à terme, on aimerait pouvoir implanter sur un des terrains d'Art Sud ici des containers qui seraient à la disposition des associations pour qu'elles puissent stocker du matériel. On a le projet très très arrêté de continuer à aménager ce bâtiment pour permettre aux associations de disposer d'une pièce, d'un local de répétition, de faire un petit peu de la présence ici pour préparer leur spectacle. Et puis on a d'autres projets, et puis on va également envoyer des techniciens de la région qui pourront proposer du conseil, de l'orientation, de l'accompagnement en termes juridiques, en termes de matériel, en termes de demandes d'aide administrative à toutes les associations qui souvent sont des petites associations qui ont de beaux projets mais qui manquent un petit peu de conseils, de soutien. Donc c'est quelque chose qu'on va faire aussi prochainement. Donc on fera des permanences ici à la disposition de ce tissu culturel local pour les accompagner, pour les aider.
Et puis Arsud a également deux pieds-à-terre, un à Saint-Laurent-du-Var et puis votre siège à Bouc-Bel-Air. Vous vous implantez véritablement sur le territoire régional.
Absolument. C'est un des souhaits et une des volontés du président Muselier depuis quelques temps déjà, de couvrir le territoire régional. Donc je vous rappelle ces 6 départements, parce que on parle de culture aujourd'hui, la culture doit être partout et la culture doit être pour tous. Donc ça fait partie de cette volonté d'être présent. Je crois que le maire de Sisteron l'a bien souligné, être à l'écoute des collectivités, être à l'écoute des administrés, être à l'écoute des associations, et par notre présence sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, parce que je pense qu'avec nos 3 antennes, comme vous l'avez souligné, on couvre la totalité du territoire, on peut être à l'écoute de notre tissu culturel régional.
On peut signaler aussi le besoin croissant des associations, notamment après ces 2 années terribles de pandémie qu'on a vécues.
Oui, effectivement, les associations, comme tout le monde, a souffert de ces 2 années, de ce confinement, de cet arrêt d'activité. Mais Arsud, justement, a continué à les accompagner. C'est un travail qu'on faisait en distanciel, à travers des rencontres en visioconférence. Là encore, on les a aidés, on les a accompagnés. On avait fait voter par le conseil d'administration de Arsud un kit de redémarrage. On leur a proposé un certain nombre de choses, même parfois pendant le confinement, de pouvoir disposer de scènes, puisque les théâtres étaient fermés et que les compagnies qui avaient des projets cherchaient des endroits pour pouvoir répéter et préparer leur spectacle. On a réussi à organiser un travail parfois en distance et parfois en présentiel, parce qu'il est vrai que tout le monde a été impacté par cette situation qui a duré pratiquement 2 ans, et les compagnies et les artistes et les lieux en ont également souffert, mais Arsud a toujours été là pour les accompagner pendant cette période-là et pour redémarrer, donc on continue à être là auprès d'eux.
Daniel Spagnou, maire de Sisteron, c'est un bel outil qui s'installe dans votre commune.
Oui, c'est un bel outil, c'est un bel événement que le conseil régional ait décidé d'installer Arsud ici. Ça montre que Sisteron est une plaque tournante, géographique et économique. Géographique parce qu'on a la chance d'avoir 2 entrées et 2 sorties d'autoroute, donc on est à proximité un petit peu de toutes les communes des 2 départements. Mais en même temps, je voulais remercier, bien sûr, Renaud Muselier, le président du conseil régional, qui a eu cette idée extraordinaire de créer Arsud, son président, qui est ici, à nos côtés. Parce que on voit bien, par la présence des maires nombreux ce matin et des présidents d'associations, que c'est devenu indispensable, parce que les collectivités et les associations n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter de matériel de plus en plus sophistiqué. Donc ça, c'est un beau service qu'offre la région. Ça en est un parmi tant d'autres, parce que jamais notre région a été aussi présente auprès des collectivités. En tant que président des maires du département, je voudrais rendre hommage à l'action de Renaud Muselier, à l'action de tous ses collaborateurs, mais aussi de tous ses vice-présidents et délégués, parce qu'il y a un travail remarquable qui est fait pour la ruralité. Et puis il y a aussi des aides financières très importantes. Enfin, la ruralité, par la région en tous les cas, n'est pas oubliée.
Élodie Prel, vous êtes la directrice du Théâtre Durance à Château-Arnoux-Saint-Auban et vous êtes également membre du conseil d'administration d'Arsud. C'est un moment fort aujourd'hui.
C'est un moment important parce qu'effectivement, cette antenne dans le pays alpin, elle a existé à Veynes un petit moment, mais qui était un peu loin pour nous des Alpes de Haute-Provence. Et le fait que cette nouvelle antenne s'ouvre à Sisteron, vraiment à côté de l'autoroute, je pense que c'est vraiment un bien pour tous les acteurs culturels et artistiques de nos 2 départements, puisqu'en plus, on est à vraiment un jet de pierre de l'autoroute. Et donc, c'est vraiment, je trouve... Oui, un geste important de la région de prendre aussi en compte les territoires un peu plus éloignés des grands centres urbains. L'aménagement du territoire passe aussi par des structures comme Arsud qui posent justement leurs services et leur matériel dans nos départements.
Vous-même, dans votre théâtre, vous êtes à la croisée véritablement l'économie publique et l'économie privée, autrement dit les associations. C'est le rôle d'Arsud aussi.
Oui, le rôle d'Arsud, c'est vraiment d'être un outil d'accompagnement de la politique culturelle avec une volonté politique forte portée par le président de la région, Renaud Muselier, et tout l'exécutif aussi. Nous, on a constaté en tant qu'acteurs culturels, quelles que soient nos tendances politiques respectives, qu'il y a eu un effort budgétaire très important vis-à-vis de la culture et qu'il y a une belle écoute aussi des acteurs culturels. Certes, on est dans une gestion privée, puisque nous sommes des associations, mais on dépend fortement de la puissance publique. Et donc ce dialogue public-privé, qui passe notamment par la décision politique, il est extrêmement important. Et je dois avouer, on est plusieurs à être d'accord là-dessus, c'est qu'on est quand même dans une région où encore aujourd'hui, combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais encore aujourd'hui, on a un soutien absolument impressionnant et même, je dirais, hors normes des élus, toutes tendances politiques confondues. Et je pense que c'est aussi une prise de conscience pour les élus que l'art et la culture, c'est pas seulement du divertissement ou du plaisir de l'œil, c'est aussi un vrai outil de lien social, de construction de commun, pour faire société ensemble dans un pays qui est quand même bousculé, qui a été bousculé par la pandémie, et sur un territoire où les gens sont assez éloignés les uns des autres. Donc on est là aussi pour faire le lien et le liant, et pour ça, on a besoin des élus, les élus ont besoin de nous. Et du coup, une agence comme Arsud, c'est aussi ces courroies de transmission, ces outils, c'est des choses très techniques et très concrètes qui pourraient nous manquer et que finalement la puissance publique amène.
Gilbert El-Kaïm, vous présidez les Riches Heures Musicales de Simiane-la-Rotonde. Vous êtes également un élu local à Simiane-la-Rotonde. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'inauguration de cette agence Arsud ?
L'agence Arsud, d'abord, je trouve que c'est une excellente initiative, déjà. Et puis, quand on est dans les locaux et qu'on voit le matériel disponible, et puis les annonces qui ont été faites sur cette mise à disposition, je trouve ça extraordinaire, parce que le tissu culturel, je parle pour notre département, les Alpes de Haute-Provence, les Basses-Alpes, c'est quelque chose qui est fragile. On a eu la chance, nous, à Simiane, avec le Festival des Riches Musicales, de fêter notre 40e anniversaire. Village de 600 habitants, petite commune, et on a tenu 40 ans. Et je pense que ça pourra continuer. Donc c'est important qu'on ait ce soutien et cette mutualisation. Quand on voit le matériel qui sera mis à disposition, ça crée aussi des idées de coopération entre festivals, entre structures culturelles, entre organisations, et puis au niveau des collectivités territoriales, je pense aux communes qui n'ont pas forcément les moyens, loin de là. C'est vraiment une excellente chose et une excellente idée de mutualiser comme ça des moyens.
Vous avez dit des communes qui n'ont pas de moyens. C'est le cas de votre commune, Simiane.
Ah oui, 600 habitants. Malgré cela, je dirais le fait de pas moyens, mais il y a eu toujours un soutien indéfectible de la commune, d'abord au premier rang, et puis de toutes les collectivités territoriales. Je dois reconnaître que la région, le département, cette année, l'État aussi est arrivé avec la DRAC. Donc l'ensemble des collectivités et l'État ont soutenu. Ont soutenu parce que je pense qu'ils ont constaté qu'il y avait un effort de qualité, d'ouverture, d'originalité. Et dans ce cas-là, on arrive à convaincre.
Vous allez solliciter Arsud ?
Alors, cette année, on a sollicité Arsud, mais là, je change de casquette dans le cadre de mes fonctions d'adjoint à la culture et en liaison avec une nouvelle association qui vient d'arriver à Simiane qui s'appelle Musique et Yoga, avec Thierry Riboulet, qui est un excellent trompettiste de jazz. Et donc, avec les contacts qu'on a eus sur Arsud, Arsud a organisé un bistrot de pays. Enfin, moi qui étais dans un temps lointain, un des pères, entre guillemets, des bistrots de pays. Une soirée de musique balkanique et de jazz de ces régions, qui a été formidable dans la halle de Simiane, la halle quartier Bresson. Donc voilà, le dernier exemple, Arsud. Et puis on a un projet, on a discuté de manière très libre avec Arsud, c'est la possibilité peut-être un jour d'avoir des résidences d'artistes. J'ai eu l'occasion d'en parler cet été avec Christophe Rousset, qui a animé notre 40e anniversaire, qui est un habitué maintenant et un amoureux de notre département. Et je lui en ai parlé, il m'a dit pourquoi pas. Pourquoi pas une résidence d'artiste qui pourrait venir dans l'année et puis après apporter des choses, des échanges, etc. Et là, Arsud serait tout à fait au cœur du dispositif. Donc on réfléchit à des choses qui peuvent se développer.
Ça bouge à l'IDBL.
Depuis 2 ans, Emmeline Hudd est la directrice de l'école d'art dignoise IDBL. Elle présente l'exposition collective « Les Contemporaines Acte 2 » au micro d'Odile Frison. Cette exposition originale et dynamique est réalisée par des artistes femmes et elle est visible jusqu'au 21 octobre. Un second rendez-vous aura lieu pour cette rentrée, le mercredi 5 octobre, avec la conférence de Masahiro Suzuki à 18h, une conférence ouverte à tous à l'auditorium de l'école d'art.
Emmeline Hudd, directrice de l'école d'art IDBL, vous succédez à Laurent Charbonnier depuis 2 ans déjà, mais 2 ans qui ont été un peu particuliers évidemment.
Oui, en effet, le Covid n'a pas épargné le monde culturel. Donc on a aussi vécu deux années un peu compliquées. On est juste content cette année de vivre une rentrée enfin normale. On peut de nouveau accueillir tous les publics, aussi bien enfants, adolescents qu'adultes. Et on est très content aussi cette année de vraiment retrouver du monde. On a pas mal de listes d'attente en fait dans les différents cours déjà, parce que voilà, les gens sont de retour, ont envie de faire des choses. Ça, c'est plutôt un bon signe pour nous.
Donc une rentrée qui s'annonce bien et avec une exposition qu'on peut retrouver, elle dure quelques jours encore?
Oui, plusieurs semaines encore. Elle est ouverte jusqu'au 21 octobre, jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc j'invite tous les spectateurs à venir nous retrouver à l'école dans ce lieu qui est ouvert à tous. C'est une exposition qui s'intitule « Des contemporaines ». Donc une exposition collective qui réunit 6 artistes, mais qui sont aussi des femmes et aussi des pédagogues. Ça me tenait à cœur et ça faisait sens aussi pour moi dans ce projet d'inviter ces artistes qui sont aussi des transmetteuses, des femmes qui ont œuvré tout au long de leur carrière, à la fois comme artistes, mais aussi comme pédagogues. Et donc ça me paraissait particulièrement judicieux dans une école d'art, de leur faire une place et de rendre hommage à leur engagement, en fait, aussi bien dans la création que dans la transmission, parce que c'est... Je pense que c'est un engagement très fort qu'elles ont et nous on sait à quel point c'est un sacerdoce, c'est une passion en fait. Ce sont des artistes qui ont toutes entre 55 et 65 ans, donc c'est pas anodin aussi, ce sont des gens qui se sont vraiment investis tout au long de leur vie dans ces domaines-là. Et l'exposition est une façon aussi de le rendre hommage, voilà, à ce travail qu'elles ont effectué. Et alors par ailleurs, l'exposition interroge les limites de la peinture. Donc elles ont toutes des travaux très différents en fait, les unes des autres. L'idée c'est de montrer, voilà, de se situer un peu aux marges de la peinture et de montrer comment on interroge un médium avec des moyens parfois très différents. Une exposition qui est très facile d'approche parce qu'il y a une dimension colorée qui est très forte et notamment de couleurs chaudes. Donc je pense, moi j'ai de bons retours en fait, les gens apprécient énormément cette exposition parce qu'on s'y sent bien en fait, il y a une forme d'énergie et de dynamique qui se dégage, qui fait qu'on y passe du temps souvent en fait, à observer de près, de loin, parce qu'on a des objets très variés, on a des peintures, drapeaux, bannières de Solange Triget qu'il faut déployer soi-même dans l'espace pour pouvoir accéder à l'image, parce que sinon elle est repliée sur elle-même. On a des photos diaprures de Sandra Mauro qui sont en fait des photographies, mais qui montrent des champs colorés extrêmement profonds et flous en fait, sans forme, informes. Donc ils sont très intrigants. Donc on a pas mal d'objets comme ça qui chacun interroge et voilà, mobilise le spectateur. Et donc il y a, en tout cas, on a pu observer un vrai plaisir de la part des différents publics à découvrir cette exposition.
Le fait que ce soit que des femmes enseignantes et artistes qui exposent, c'est un choix que vous avez fait vous ou elles font partie d'un collectif?
Alors au départ, c'est Sandra Mauro et Christine Heitzler qui ont un atelier à Hyères, au sein du parcours des arts, dans la vieille ville de Hyères. En fait, elles ont gardé un espace libre dans cet atelier pour en faire un espace de galerie aussi, donc c'est un atelier galerie, et elles y invitent régulièrement d'autres artistes à montrer leur travail. Et donc moi, j'avais vu une première version en fait de cette exposition qu'on accueille aujourd'hui à Digne. La première version a eu lieu en mars dernier, elles ont fait le vernissage le 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme. Et moi, j'avais vu l'accrochage qu'elles avaient fait dans un tout petit espace qui fait 20 mètres carrés. Et donc, elles arrivaient à montrer dans 20 mètres carrés des travaux très différents les uns des autres et de 6 artistes différentes. Donc, c'était un vrai défi qu'elles avaient extrêmement bien, je trouve, réalisé. Je trouvais que le projet était vraiment intéressant et que ici à l'IDBL, on a un espace d'exposition qui fait 100 mètres carrés et donc je leur ai proposé d'investir cet espace. Donc ça voulait dire aussi pouvoir montrer plus d'œuvres et puis retravailler cette dimension de l'accrochage, de la mise en espace. C'est un vrai travail de commissariat qui n'est pas simple, d'arriver à faire dialoguer les œuvres entre elles. Et surtout quand elles ont autant de différences de facture entre elles. Et je trouve que ce qu'ont réussi Sandra et Christine dans cet accrochage, c'est vraiment du très très beau travail.
Alors on va revenir aux événements à venir à l'école d'art de Digne-les-Bains. Il y a une conférence très prochainement.
Effectivement, on accueille mercredi 5 octobre un artiste japonais qui s'appelle Masahiro Suzuki, qui a fait ses études au Japon, mais aussi en France, dans différentes écoles d'art et à l'université d'art en art plastique, qui est basé à Marseille maintenant depuis quelques années, qui est quelqu'un qui a un travail à la fois poétique, mais aussi très en prise avec la matière. C'est quelqu'un qui réagit beaucoup aux différents milieux dans lesquels il vit. Donc alors, il va beaucoup utiliser des matériaux naturels, mais quand il est à Marseille, il travaille aussi avec les matériaux que la ville lui offre. Donc c'est assez intéressant de voir, c'est une démarche qui est très réactive par rapport à son environnement proche. Donc il absorbe en fait cette matière que l'environnement lui donne et il la réagence de façon très personnelle pour en faire des sculptures, parfois mobiles. Donc il a fait toute une série comme ça de sculptures à Marseille sur roulette et à partir des choses qu'il trouvait dans la rue. Il y a un côté performatif aussi dans son travail de sculpture. Voilà, donc je vous invite à venir rencontrer Masahiro effectivement la semaine prochaine et à découvrir son travail qu'il va présenter donc à 18h dans l'auditorium de l'IDBL.
Hommage. Emmanuel Lambert salue Jacques Meny.
Un moment fort d'émotion et de gratitude a marqué les correspondances 2022 avec cet hommage à l'emblématique et attachant président des Amis de Jean Giono. En juin dernier, Jacques Meny nous a quittés, plongeant tous ceux qui l'ont côtoyé dans une profonde tristesse. Fin connaisseur de la vie et de l'œuvre de l'auteur de Regain, Jacques a laissé un souvenir impérissable chez tous ceux qui l'ont connu. Celle qui fut commissaire de l'exposition Giono du MUCEM à Marseille et qui a écrit un remarquable Giono Furioso, prix Femina Essai en 2019 chez Stock, a salué avec dignité ce caractère complètement imbibé de Giono qu'était Jacques Meny. Une heure totale avec des souvenirs et des anecdotes pour évoquer le travail, la passion et les surprises, sans oublier le rire franc et sonore de Jacques, resté gravé dans bien des oreilles des auditeurs du jour. Au-delà de la tristesse, l'instant fut sensible et émouvant. Dans la salle, Sylvie, la fille de l'écrivain, Christian Morzewski, qui a pris la suite de Jacques à la présidence des Amis de Jean Giono, et plusieurs membres de l'association, ainsi que Jackie Michel, président des Amis de Lucien Jacques. Ce dernier a guidé Emmanuel Lambert dans la superbe exposition retraçant l'amitié Giono-Jacques, accrochée pendant les correspondances à la médiathèque d'Herbès. Écoutons Emmanuel Lambert, dont l'hommage à Jacques Meny a marqué l'assistance. Emmanuel Lambert, vous avez salué Jacques Meny durant les correspondances, c'était naturel.
Ah bah oui, c'était tout à fait naturel, c'était sur ce fameux créneau du samedi matin 11h que Jacques concevait tous les ans avec des lectures de Giono. Evelyne Pravillo trouvait impensable qu'il n'y ait pas quelque chose cette année, et moi je voulais lui rendre hommage, alors ça s'est bien combiné.
Un hommage puissant, une image passionnée et en même temps un hommage très digne.
Ah bah je vous remercie. puissant et passionné, c'est lui, hein, c'est pas moi. Vous savez, je crois que quand on disparaît, on laisse vraiment... Il y a encore des choses de ce qu'on était qui circulent dans l'air et dans l'atmosphère des gens qui nous ont aimés. Et Jacques, il nous a laissé ça, sa puissance et sa passion.
Il était là ce soir?
Je ne sais pas, mais je pense que pour ceux qui croient à ces choses-là, peut-être. Moi, j'ai tellement de souvenirs de toute façon qu'il est toujours présent dans un coin.
Et puis surtout cette connaissance incroyable de l'œuvre de Giono, de la vie de Giono également.
Voilà, ça c'était vraiment un cas très extraordinaire. C'était un personnage extraordinaire pour plein de raisons, mais c'est vrai que de ce point de vue, j'ai rarement vu un tel degré de fusion, presque amoureuse en fait, entre un spécialiste d'une œuvre et son sujet. Et c'était très beau à observer.
Il y avait également un objet qui l'accompagnait traditionnellement, et vous en avez parlé. Dedans, il y avait des tas de mystères, des tas de documents, etc. C'est sa sacoche en cuir.
Et oui, parce qu'il y a un côté comme ça chez les amateurs passionnés, il y a un côté chercheur de trésors. Hein. Et donc Jacques écumait les différents centres d'archives, les particuliers, les témoins pour trouver des traces toujours plus nombreuses du passage de Giono. Et il a fait un travail de documentation colossal avec ses amis de l'Association des Amis. Et c'est un travail génial pour toutes les personnes qui veulent se pencher sur le sujet.
Vous avez évoqué également le travail en commun que vous aviez fait pour l'exposition au MUCEM. C'était une énergie incroyable, Jacques Meynie.
Oui, c'était. Vous savez, ça fait partie de ces catégories de gens qui, à la fois, vous épuisent parce qu'il faut les suivre, et en même temps, ont tellement d'énergie qu'ils vous en donnent.
Aujourd'hui, quand on pense à Jacques Meynie, on pense aussi à Michel, et vous avez rendu hommage à Michel Aubert également. Quelle image vous vient de Jacques, hein?
Bah, tout ce que vous avez dit. Le savoir, la générosité, le tempérament. Giono aurait appelé ça le caractère, voilà. Giono appelait ça les caractères. Et puis cet amour d'une œuvre qui est vraiment, je crois, quand on est écrivain, on ne peut que rêver d'avoir un admirateur comme ça.
Quand vous avez préparé cet hommage, vous saviez que vous allez avoir en face de vous l'Association des Amis de Jean Giono, Sylvie Giono et des gens qui l'ont très bien connu. Comment vous avez appréhendé ce moment particulier ?
Ah bah je l'ai appréhendé en refusant absolument d'y penser, parce que sinon on était tamisé. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'être le plus sincère possible et le plus juste possible sur ce qu'on ressent soi pour que les autres puissent le partager.
Et vous l'avez été, merci Emmanuel Lambert.
Manosque, danse à Jean le Bleu, mercredi 5 octobre.
Céline Barraud-Gondran est chorégraphe et professeure de danse contemporaine à Oraison. En 2017, elle crée la compagnie de danse Le Songe du Métatarse, Epithélium, avec un S, est une pièce chorégraphique avec 5 danseuses et un danseur qui sera donnée au théâtre Jean le Bleu à Manosque, mercredi 5 octobre à 19h, avec une participation libre. Céline Barraud-Gondran répond aux questions d'Odile Frison.
Céline Barraud-Gondran, vous êtes professeure de danse et aussi chorégraphe. Vous faites partie de la compagnie Le Songe du Métatarse et vous présentez un spectacle très prochainement à Manosque.
Oui, alors c'est un spectacle de danse contemporaine donc qui aura lieu mercredi 5 octobre à 19h au théâtre Jean le Bleu à Manosque. L'entrée est libre, c'est une participation libre et consciente.
Ça s'appelle Epithélium.
Oui, alors c'est une pièce effectivement qui s'appelle Epithélium, une pièce de groupe pour 6 danseurs et danseuses. C'est la troisième pièce de la compagnie qui est quand même relativement toute jeune, qui date de 2017. Et c'est donc la première pièce de groupe de cette petite compagnie locale. En improvisation au départ, on a travaillé sur la peau et comment construire le mouvement, comment construire une pièce à partir de la peau. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'état de corps. Et c'est donc une pièce qui est composée en moitié d'improvisation cadrée, dirons-nous, et d'écriture chorégraphique. Donc les deux sont mélangés. Après, j'ai posé, moi, une écriture, un cadre, une structure à cette pièce. Donc il y a quand même une mise en scène. Ce n'est pas que de l'improvisation du tout. Voilà, les deux sont mélangés. Donc on a vraiment travaillé sur des états de corps et beaucoup de danse contact du coup, puisqu'on a travaillé autour de la peau et voilà, cette manière de pouvoir construire, d'expérimenter le mouvement par ce biais-là.
Donc vous serez sur scène, vous êtes 6 danseurs, c'est ça ? Enfin danseuses.
Alors on est 5 danseuses et un danseur d'âge mélangé et de formations diverses puisque si on est à la fois moi professionnelle et c'est un groupe amateur grand amateur avec 3 danseuses qui travaillent avec moi maintenant depuis de nombreuses années et 2 nouvelles rencontres et on a croisé nos chemins, on a croisé nos parcours, nos disciplines et on a réussi effectivement à proposer ce travail commun de groupe sur ces mêmes expérimentations et je suis assez heureuse de ce mélange et du résultat voilà et je défends ardemment la danse amateur, grands amateurs justement et l'âge aussi tous âges confondus, je trouve que c'est important de continuer à proposer des pièces pour un public amateur au-delà de 30 ans. Voilà, c'est quelque chose que je défends aussi, donc je suis heureuse de ce travail-là aussi pour ça.
Alors, la compagnie est affiliée et conventionnée par la Fédération française de danse. Il y aura aussi une première partie à votre spectacle Epithélium.
Oui, effectivement, la compagnie est conventionnée depuis l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle est appuyée par la Fédération française de danse. gage donc d'une certaine confiance de leur part, puisque moi j'ai été récompensée plusieurs fois aux rencontres nationales et il y a quelques années. Donc, c'est une marque de confiance de leur part et donc ils suivent maintenant ce que je fais et je vais voir comment je vais croiser avec eux dans ce cadre-là. Et puis il y aura une première partie effectivement, Paris Idolix, c'est un solo que je vais danser, que je propose 10 minutes de travail, pas de sortie encore de création puisque je suis en plein dedans. C'était une manière aussi de le mettre devant un public, de voir comment il réagit. C'est une pièce qui s'oriente quand même sur un tout public, voire jeune public, puisque j'ai déjà fait ce travail-là avec Hugues Breton notamment sur la deuxième pièce de la compagnie. Donc c'est un travail qui est différent, qui est vraiment plus axé sur un théâtre gestuel. C'est des choses que j'ai travaillées aussi, donc je un mélange aussi d'un peu toutes les disciplines que j'ai abordées. Donc voilà, ce sera 10 minutes de sortie de création juste avant Epithélium, effectivement.
La danse, c'est évidemment du mouvement, mais c'est aussi des costumes et de la musique. Vous faites vous-même les costumes ?
Oui, je crée les costumes, effectivement. Ça fait partie des choses que j'aime faire, de créer une pièce, c'est un ensemble de choses, et c'est vrai que je crée les costumes. Alors, soit je les fais complètement, ce qui est le cas pour Paris Idolix, où j'ai vraiment créé presque un personnage à partir de mon imaginaire. Et les costumes d'Epithélium, effectivement, là, j'ai travaillé sur une idée de groupe et je les ai fait en partie. En tout cas, je les transforme, mais c'est moi qui les crée, oui, voilà.
Et en ce qui concerne la musique, alors
La musique, c'est une bande son pour Epithélium, c'est une bande son. J'ai travaillé beaucoup à la fois musique et des espaces de silence et de bruitage. J'essaye de faire une bande son assez aérée. Et là, en fil rouge, on va dire que j'ai travaillé sur l'idée des notes de piano. Donc, il y a du piano à la fois classique et à la fois sur des musiques beaucoup plus contemporaines. Des histoires de gouttes aussi, donc il y a cette espèce de percussion de piano qui est présente en fait dans toute la bande-son, sur des dynamiques, sur des styles de musique différentes, mais il y a voilà ce fil rouge là qui donne quelque chose qui coule un petit peu, et c'était la petite chose qui revient sur toute la bande-son, effectivement.
On vous retrouve sur la scène du théâtre Jean Le Bleu, c'est un mercredi 5 octobre.
C'est ça, c'est à 19h.
À 19h. Et voilà. L'entrée au chapeau.
L'entrée au chapeau, voilà, la sortie. Voilà, comme ça, si chacun donnera en fonction de ce qu'il pourra et ce qu'il aura envie de donner. Voilà.
Et on rappelle quand même que vous avez aussi subi la crise sanitaire pendant ces 2 ans. C'était difficile aussi pour les danseurs.
Oui, ça a été difficile parce qu'effectivement, la compagnie a été créée juste avant et on avait 2 pièces, effectivement, deuxième corps avec Juliette Pemblanc que j'avais créée, qui est autrice, et caisse avec Hugues Breton qui est plasticien, dessinateur. Et ces 2 pièces-là avaient été soutenues par la DLVA, on avait été programmées dans la programmation culturelle. Et la dernière, effectivement, a été annulée en pleine période Covid. On n'a pas été reprogrammée comme beaucoup de pièces à ce moment-là. Et effectivement, la compagnie qui commençait à prendre un peu son élan, voilà, tout est redescendu. Et j'espère que cette soirée va redonner une dynamique à la fois par rapport au public, nous en tant que danseurs, et puis aussi financièrement, parce qu'effectivement, on n'a plus du tout de fonds associatifs, et c'est aussi l'occasion de remettre tout ça en route. En tout cas, c'est ce que j'espère très fortement pour cette occasion-là.
Merci Céline Barraud-Gondran. Et donc, vous avez un site, on peut retrouver les informations, vous donnez des cours toujours en parallèle ?
Alors, je n'ai pas de site, oui, je suis désormais à l'école de musique d'Oraison, donc école de la DLVA, où j'enseigne la danse contemporaine pour les enfants et les ados et les adultes. Compagnie Le Songe du Métatars, voilà, il y a une page Facebook que j'actualise régulièrement.
Nuit de folie et Partir un jour assisteront le 29 octobre.
C'est un clin d'œil et d'oreille à 2 énormes hits des années 80 et 90 que beaucoup ont encore en mémoire. Ces titres ne seront pas les seuls dans une belle soirée en perspective au complexe des Mares de Sisteron le samedi 29 octobre à 20h30 avec un plateau d'artistes qui vont chanter ces années-là. Un show spécialement composé pour Sisteron par Lila Ferrario qui produit et organise l'événement pour Emergence Prod. Cette dernière est au micro de Chris Alessandri.
Lila Ferrario, Emergence Productions, c'est tout un contexte. Vous traversez la France et vous présentez bon nombre de spectacles avec tous les artistes très connus.
Oui, c'est-à-dire que j'ai créé cette société en 1991 et tout doucement, j'ai pu avoir des artistes de renommée. Notamment, j'ai eu la chance et le bonheur de travailler avec Michel Legrand. Ça n'a pas été simple parce que j'étais une petite société de production à l'époque, mais il m'a fait confiance et j'ai eu un cadeau dans ma vie de produire Michel Legrand dans toute la France, entre autres.
Lila, vous êtes sur les routes depuis de nombreuses années avec les artistes. Quelle impression est-ce que vous en gardez? Quelles sont les sensations que vous éprouvez? Parce qu'il y a le trac que vous vivez comme les artistes qui vont se produire sur scène puisque vous les accompagnez.
Alors, je ne sais pas si c'est du trac. C'est plutôt de l'excitation chez moi. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé que ce métier apportait énormément de joie. Forcément, il y a des difficultés parce qu'il y a des enveloppes financières à prévoir. Il y a tout ce qui est responsabilité d'assurance préalable, les cachets des artistes, déclarer, suivre, mettre en place le spectacle, faire la communication, ce qui est un gros moment. Et le moment le plus important, c'est de bien communiquer, d'expliquer qui sont les artistes. Mais bon, quand il s'agit d'Alain Gorka, Gold, plus près des étoiles, Ville de Lumière, on n'a plus rien à dire. Quand on a Princesse Erika, on n'a plus rien à dire. Pauline Esther, oui, je l'adore, ça c'est complètement chouette. Les boy bands qui reviennent et qui font un succès fou et qui font les zéniths, et ça on a de la chance de les avoir également sur le plateau de Sisteron, j'entends, et L'âme, qui est une chanteuse merveilleuse et qui accroche son public et qui est très demandée.
Et vous faites vraiment des plateaux sur mesure, hein, des plateaux d'artistes que vous composez complètement, hein, autour des années 80, la nostalgie 90, les passeports pour les tropiques, entre autres, les hommages aussi que vous faites.
Ah oui, c'est ça. En fait, comme je travaille beaucoup avec les villes ont des jauges de théâtre différentes. Je peux pas prévoir un plateau où il y aurait Lio, Sloan, Plastic Bertrand, tout ça, ça coûte cher. Et s'ils ont une jauge de 400, il faut faire un plateau sur mesure parce qu'il y a vraiment des grandes stars au milieu de tout ça. Sabrina, c'est quelqu'un qui est extrêmement cher parce qu'elle est très populaire et elle a fait un tabac dans le film des années 80. Alors oui, c'est sur mesure. Actuellement, je mets en place un nouveau plateau qui m'est très demandé. C'est 80-90. Il faut quand même penser que ça fait 15 ans qu'on tourne avec des plateaux des années 80. Donc là, je passe un peu à 1990. Et c'est pas mal comme cocktail parce que c'est un public qui va être mixé entre les gens de 80 et les 90.
Alors voilà, justement, donc, il y a ce public pour le cerner un peu. Comment se comporte-t-il? Quelle ambiance est-ce qui émerge de ces spectacles? Comment vous le ressentez, ça?
Ah, là, c'est terrible. Ça, c'est le meilleur moment. Là, c'est terrible. Alors d'abord, il y a beaucoup la queue, parce que beaucoup viennent au dernier moment. On met une petite boutique de merchandising pour ceux qui veulent mettre une perruque, avoir des lumières dans la main, des bracelets qui s'éclairent. Et là, bon, on va lancer le délire, parce que ceux qui ont pris des places assises, au bout d'un quart d'heure, ils sont debout. Après, bon, faut gérer ça aussi. C'est pour ça que j'aime bien lorsqu'on a une salle avec des gradins. On est sûr que là, les personnes qui vont avoir acheté une place gradin, qui est plus chère, puisque pour Sisteron, elle sera à 35 euros. Debout, c'est 25 euros. Et les VIP, il y a un carré VIP à 42 euros. Les VIP sont reçus ensuite au cocktail pour rencontrer les artistes, voilà, faire des photos.
Alors là, vraiment, c'est toute une ambiance, hein, que vous avez dépeinte avec Émergence Production. Rendez-vous, vous l'avez dit, prochainement, nous sommes sur la région sud-est, rendez-vous prochainement à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, quel est le plateau que vous amenez à Sisteron et ça va se passer quand?
Alors, ça se passe le 29 octobre, c'est au complexe sportif des Mares, hein, à côté du plan d'eau. Alors, c'est un plateau, je dirais, avec des copains. Maintenant, c'est des copains, parce que c'est comme une famille. Quand on se déplace durant plusieurs années, on devient des potes, on devient une famille. Il n'y a plus de productrice, il n'y a plus d'artiste, il y a du bonheur de partager un moment avec le public. C'est une nostalgie aussi quand on dit ça. Nostalgie 90, nostalgie 80. On dit quelquefois, c'était mieux avant. Bah, c'est-à-dire qu'avant, on s'amusait tout le temps. Le public qui vient chante. Ça devient une vraie chorale à la fin.
Comment vous expliquez ce phénomène, vous qui êtes au cœur du spectacle ?
Les années 80, les années bonheur, la suite des grandes glorieuses. Oui, je pense que c'est ça. On était beaucoup plus décontractés, il y avait moins d'interdits. C'est une autre période, c'est une autre vie. Depuis 14 ans, 15 ans, tous ces artistes remplissent les zéniths.
Alors Lila, un petit rappel sur le spectacle en lui-même, spécialement conçu pour Sisteron. Qui va se retrouver sur scène ?
Alors, on aura Princesse Erika, Pauline Esther, et puis l'âme, qui est également ses trois amis, en fait, qui vont se retrouver sur ce plateau de Sisteron. Et ensuite, on va avoir les boy bands qui vont mettre le feu. Mesdames, attention, elles sont très sexy, elles sont toujours aussi chouettes. Et puis, partir, voilà, tout le monde connaît ça. On a Gold, les incontournables de Gold. Alors ensuite, j'ai demandé, parce qu'on parle toujours des années 80, on parle toujours un peu de avant. Et moi, j'ai voulu inviter les finalistes de Pékin Express de 2022, Fanny et Jérémy, parce que ça, ce sont des jeunes qui ont fait le tour de tout, à pied, en stop. Faire Pékin Express, faut une grande force physique et arriver finaliste. Et ce sont des jeunes, et j'avais envie aussi de mélanger. Ensuite, nous allons avoir en exclusivité une chanson de Stéphane Orcière, accompagnée d'Aglaé, qui a son école de musique à Gap. Il y a une nouvelle. J'ai pu avoir la chorale de Sisteron, qui va venir nous faire deux titres en première partie et qui vont venir nous faire une surprise.
On va parler tarifs un tout petit peu et réservations. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'y prendre à l'avance et quels sont les tarifs, le barème de tarifs que vous proposez ?
25, debout, 35, assis gradin, VIP, carré d'or, comme vous voulez, 42. Vous pouvez aller sur Billets Réduc. Vous avez également sur l'affiche un numéro direct, c'est le 07 80 97 39 50. Eh bien, je vous attends. Assisterons le samedi 29 octobre. Il ne faut pas louper ce moment, ce concert 80-90 Assisterons. C'est un grand moment. C'est chouette, c'est bon enfant. On va danser, on va chanter, vous allez vous sentir tellement bien. C'est un moment magique. Faut pas louper ça, faut venir. Vous allez pas regretter. Je vous attends.
Merci François, c'est la fin de ce magazine, à la semaine prochaine.
Merci Louis, et juste un mot pour vous dire que nous avons vécu une belle semaine la semaine dernière à Manosque avec les correspondances 2022. Vous pouvez retrouver tous ces instants de radio sur notre site internet fréquencemistral.com avec des interviews d'écrivains notamment Monica Sabolo, Miguel Bonnefoy, Claire Baglin, René Frény, etc. Et puis des acteurs du territoire, les correspondances bien sûr, Éclat de Lire, les médiathèques, etc. etc. Les correspondances de Manosque ont bien vécues et elles sont passées par Fréquence Mistral. Merci encore Louis, à la semaine prochaine.